Sur la première, c'est QFD.
Alicia Sanchez-Mazas est notre grande invitée. Vous êtes donc directrice du laboratoire d'anthropologie génétique et peuplement de l'Université de Genève, responsable de l'unité d'anthropologie du département de génétique et évolution. On va passer le reste de cette heure avec vous et c'est Lucia Silig qui vous a convié.
Oui, on va parler d'anthropologie, de l'étude de nous donc, hein, les êtres humains, de nos ancêtres, de comment ils et elles ont peuplé la planète, mais à travers le prisme de la génétique puisque c'est votre spécialité et en particulier la génétique de notre système immunitaire, de comment les variations dans nos moyens de défense nous aident à faire face aux nouveaux pathogènes. Ça tombe bien, on en a un sacré numéro sur les bras en ce moment. Mais avant ça, on va faire un peu mieux connaissance avec vous, votre parcours, d'autant qu'il n'est pas totalement étranger à votre intérêt pour la diversité humaine. Vous êtes la dernière de 7 enfants. D'ailleurs, c'est l'exemple que vous donnez régulièrement à vos élèves pour parler de génétique. Imaginez une famille de 7 enfants. Bref, vous êtes née à Genève, mais vos parents n'étaient là que depuis quelques années. Ils sont réfugiés politiques espagnols. Ils ont fui le franquisme. En quoi est-ce que vous pensez que ça a influencé vos choix professionnels ?
Alors, je pense pas que ça ait influencé directement mes choix professionnels, mais c'est vrai que ça m'a sensibilisée à un milieu multiculturel, en fait, puisque à la maison, on parlait espagnol, à l'école, on parlait français, mon père était aussi à moitié italien, et puis dans ce milieu multiculturel, on parlait plusieurs langues, et très vite, je me suis aussi aperçue que les individus n'avaient pas tous les mêmes droits. On avait, en tant que réfugiés politiques, on était soumis quand même à des pressions, quand même d'exclusion. Et ça m'a sensibilisée à la diversité humaine, quelque part. Je pense que ça s'est manifesté plus tard dans mes options, quand j'ai fait de la biologie.
Alors, vous avez fait votre scolarité à cheval entre Genève et la France voisine, parce que vos parents espéraient pouvoir rentrer un jour en Espagne et se disaient que ça serait plus facile si vous aviez fait vos écoles en France, avec votre mère, qui était historienne de l'art de formation, votre père mathématicien et vous aussi, vous aimez les maths après une maturité scientifique. Vous commencez d'ailleurs l'université en mathématiques. Pourtant, assez vite, vous vous rendez compte que ça ne vous convient pas.
Pourquoi ça ne vous convient pas? Qu'est-ce qui ne vous plaisait pas dans les maths?
Bon, j'aimais beaucoup les maths. J'adorais ça. Je prenais ça comme un jeu. Un professeur de maturité m'avait ouvert les yeux sur sur les mathématiques et j'avais une certaine fascination. Mais quand je me suis retrouvée sur les bancs de l'université à faire que des maths, là, j'ai commencé à m'ennuyer en réalité. Et puis il y avait que des garçons aussi. On était très très peu de filles. Il manquait un petit peu cette diversité à laquelle j'étais habituée.
Bon, alors après, vous bifurquez vers la biologie et vous vous rendez rapidement compte que ça vous convient mieux.
Oui, absolument. Alors, la biologie, je l'ai découverte. D'abord, ce sont des amis qui m'ont dit, mais viens en biologie, on découvre le monde, il y a des tas de choses intéressantes. Et puis, quand j'ai donc changé à la biologie, je me suis aperçue qu'effectivement, ça me fascinait, ça m'ouvrait les yeux sur le monde qui m'entourait. Et puis, très vite, j'ai été assez prise dans cette fascination. Et j'ai été très fascinée, d'ailleurs, par la génétique, très rapidement.
La génétique, c'est un peu le côté mathématique de la biologie, c'est ça ?
Ah oui, parce que bon, il y a des mécanismes qu'il faut comprendre, c'est très complexe, ça marche comme ci, ça marche comme ça, il y a des tas d'intervenants dans la génétique, donc c'est quelque chose qui effectivement me fascinait beaucoup. On faisait des exercices de génétique, fallait les résoudre comme des exercices de maths finalement.
Et puis vous optez pour l'orientation anthropologie et c'est au moment du master que vous commencez votre plongée dans les méandres du système immunitaire humain, sauf qu'à l'époque, on déchiffrait pas encore le génome humain comme aujourd'hui, il fallait se baser sur d'autres marqueurs.
Oui, c'est pas précisément d'autres marqueurs, mais on étudiait la génétique à travers les produits des gènes, à travers les protéines. Donc dans ces protéines, il y avait les groupes sanguins, hein, il y avait toutes sortes de protéines qui montraient une variabilité. Et à partir de l'étude de ces protéines, on faisait des modèles génétiques de diversité de ces protéines. C'est seulement plus tard qu'on a commencé à plonger vraiment dans l'ADN, à déchiffrer l'ADN, à comprendre comment cette diversité était codée au niveau de l'ADN.
Et puis donc après, vous vous lancez dans un doctorat sur ce complexe HLA de notre système immunitaire dont on va parler plus tard. Mais au bout de 3 ans, vous avez un passage à vide, vous vous découragez. Et comme d'ailleurs pas mal de thésards et de thésardes surtout, comme vous avez pu le constater plus tard dans votre carrière, vous avez un moment de découragement.
Pourquoi, à votre avis, les femmes en particulier se découragent à ce stade, justement après 3 ans?
Bon, faire un doctorat, c'est travailler de façon continue jusqu'à tard le soir. On a un délai pour terminer un doctorat. On travaille souvent le week-end. Et puis, bon, moi j'étais très jeune quand j'ai commencé le doctorat. J'avais 23 ans, donc c'est vrai qu'on est... On est attiré par d'autres choses dans la vie, par des relations avec des amis, des sorties le soir, toutes choses de ce genre de choses qui nous attirent. Et puis on commence à essayer de se projeter dans l'avenir. Faire un doctorat, ça veut dire faire une carrière de chercheur où on va beaucoup bouger, où on va peut-être aller à l'étranger. C'est vrai que c'est difficile, peut-être plus quand on est une femme de se projeter dans une carrière comme ça. Et c'est assez décourageant. Et effectivement, peut-être moins à l'heure actuelle, mais il y a beaucoup de femmes qui se découragent au moment de la thèse et qui abandonnent la carrière simplement parce que c'est une période clé dans la vie.
Et vraiment plus de femmes que d'hommes, on l'observe.
Oui, alors en tout cas dans les statistiques, il y a effectivement eu beaucoup de femmes qui ont abandonné pendant la thèse. Et c'est très dommage. Ça se répercute plus tard sur la distribution des genres dans
les filières scientifiques,
oui,
en tout cas.
Oui, dans la carrière.
Bon, alors vous, pour finir, votre directeur de thèse ne vous lâche pas. Donc vous faites un peu d'architecture à mi-temps pendant une année, mais
voilà.
Pour finir, vous rempilez quand même. Vous finissez votre doctorat sans même perdre une année. Et puis à la fin, après votre doctorat, vous participez à la création d'une expo au Musée de l'Homme intitulée Tous parents, tous différents, un thème qui vous est cher, hein, qui montre par la génétique que les humains sont tous d'une grande famille. Une expo qui avait quand même resté à l'affiche pendant près de 25 ans, j'ai vérifié, jusqu'en 2015. Et puis vous partez aussi pour prendre part à une étude de terrain au Sénégal oriental, et c'est là que la linguistique vient se mêler à la génétique.
Oui, alors c'était à cette époque-là, au début des années 1990, une grande tendance d'étudier les aspects culturels en parallèle aux aspects génétiques. Donc c'est cette orientation avait été initiée par André Langanet, avec qui je travaillais, et Luca Cavalli-Sforza à Stanford, qui avait commencé à s'intéresser en fait à la diversité génétique en parallèle à la diversité des langues parlées par les populations. Et à cette époque-là, on avait commencé à travailler sur l'Afrique, sur la diversité des populations africaines, et on s'était aperçu que effectivement, il y avait une certaine corrélation dans l'histoire des gènes et l'histoire des langues. Et ça a déterminé nos recherches pendant en tout cas 10 ou 15 ans, où on a travaillé avec des linguistes, on a collaboré avec eux. Les linguistes étaient très intéressés par la génétique pour résoudre un petit peu des problèmes de classification des grandes familles de langues. Et puis les généticiens étaient très attirés aussi par l'histoire humaine racontée par les linguistes.
Sur la première, CQFD.
Alicia Sanchez-Mazas, vous êtes la directrice du laboratoire d'anthropologie génétique et peuplement de l'Université de Genève. Vous êtes notre grande invitée aujourd'hui. On va plonger maintenant dans votre domaine de prédilection, le système immunitaire humain, ses variations, et en particulier le complexe majeur d'histocompatibilité, le complexe HLA, c'est son petit nom. Alors, comme c'est un petit peu obscur pour la plupart d'entre nous, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ?
Oui, bien entendu. Alors, les molécules HLA sont des molécules très importantes pour notre biologie et notre immunité. Elles font partie intégrante de ce qu'on appelle le système immunitaire adaptatif. Quand vous êtes infecté par un pathogène, que ce soit un virus, une bactérie ou un parasite, eh bien, vous allez avoir une infection de vos cellules. Par exemple, un virus va pénétrer à l'intérieur de vos cellules. Qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, il va utiliser toute la machinerie cellulaire qui vous est propre pour fabriquer ses propres protéines à l'intérieur de vos cellules à partir de son matériel génétique, que ce soit de l'ADN ou de l'ARN. Et par la suite, eh bien, il reconstitue des milliers de nouveaux virus et finalement, votre cellule va éclater et les nouveaux virus vont infecter d'autres cellules, etc. Mais heureusement, on a quand même une immunité et en réalité, ça se passe pas toujours comme ça. C'est-à-dire que les protéines nouvellement fabriquées à l'intérieur de vos cellules vont, grâce à beaucoup d'enzymes et d'autres acteurs, découper vos les protéines du virus en de nombreux petits fragments qu'on appelle des peptides. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans la cellule? Les molécules HLA, qui sont synthétisées dans les gènes du même nom, vont attraper ces petits peptides, vont les reconnaître, vont les lier et vont les présenter à la surface de la cellule. Un petit peu pour dire, eh bien, oups, cette cellule a été infectée. Regardez, c'est des petits peptides qui sont étrangers à notre organisme. Il faut les détruire. Il faut détruire ces cellules infectées. Et à ce moment-là, des lymphocytes qui sont d'autres catégories cellulaires que nous possédons, qui sont fabriqués, vont reconnaître ce complexe HLA peptide et à ce moment-là vont détruire les cellules infectées.
Un peu comme s'il y avait un marqueur sur la cellule. Attention, cellule infectée. Venez voir ce qui se passe.
Absolument.
Et pourquoi est-ce que ce complexe HLA et les gènes qu'il code sont particulièrement instructifs, hein, du point de vue de l'anthropologie, hein, intéressant à étudier pour le peuplement de l'histoire de l'humanité?
Alors, en réalité, quand on a commencé à travailler sur ces gènes, l'immunité en tant que telle ne nous intéressait pas beaucoup. Ce qui nous intéressait, c'est l'immense diversité sur le plan moléculaire de ces gènes HLA. Parce que, en réalité, les gènes HLA sont les plus diversifiés de notre génome. Ça veut dire que chaque gène HLA, et il en existe de nombreux, peut présenter différents variants, différents allèles, comme on appelle ça en jargon de biologistes, cette diversité, elle était très intéressante à étudier parce que on se disait, si ces gènes sont tellement diversifiés, c'est que quelque part, ils peuvent muter librement et ils peuvent se diversifier et évoluer dans les populations humaines. Et si l'on étudie ces gènes dans différentes populations, peut-être qu'ils vont nous raconter une histoire de ces populations.
C'est un marqueur un peu plus fin, disons que si on prenait yeux bleus, yeux bruns, on a un peu on-off, tandis que là on a vraiment quelque chose qui est ultra détaillé. Est-ce que vous pouvez nous donner un ordre de grandeur du nombre, je crois qu'il y a une douzaine de ces gènes HLA, c'est juste, et le nombre d'allèles qui sont liés à ces gènes?
Oui, alors la douzaine de gènes HLA que vous mentionnez, ce sont les gènes qui sont les plus variables, il en existe d'autres, mais qui sont les plus variables, et puis chacun de ces gènes peut présenter des milliers de variants. Donc finalement, quand vous combinez l'ensemble des gènes et l'ensemble des variants ou des allèles possibles de chaque gène, vous avez des chiffres astronomiques. Et vous et moi, nous sommes très certainement différents pour nos gènes HLA.
Mais ça veut dire en quelque sorte que si je trouve un variant chez Lucia, et puis que j'ai le même variant chez moi, ça veut dire qu'on est très proches géographiquement, ça permet de raconter un petit peu notre filiation, ces gènes HLA?
Alors si vous étudiez, en réalité, ce que l'on fait, c'est d'étudier les fréquences de ces variants dans les populations. C'est ça qui est important. Les fréquences de ces variants vont vous dire, si dans deux populations les fréquences sont très semblables, c'est que ces deux populations, qui sont néanmoins différentes maintenant, elles ont divergé il y a peu de temps. Par contre, si vous voyez que les fréquences de ces variants sont différentes, vous vous dites il y a eu suffisamment de temps pour que dans une population, il y ait certains variants qui aient acquis une fréquence plus importante ou certains variants aient été éliminés dans l'autre population, par exemple. Donc, effectivement, vous remontez une généalogie des populations en étudiant ces gènes.
Et on sait pourquoi il y a une telle diversité dans ces gènes?
Alors, ça, on s'en est aperçu un peu plus tard, en se rendant compte que la sélection naturelle pouvait favoriser la diversité. Donc, si vous voulez, il y a deux grands mécanismes qui déterminent l'évolution génétique. D'un côté, il y a tous les mécanismes liés à l'histoire humaine, à l'histoire des migrations, à l'histoire démographique, qui influencent énormément la vitesse à laquelle les fréquences de ces variants vont changer. Et puis, de l'autre côté, il y a tous les mécanismes de sélection naturelle, c'est-à-dire des pressions, en l'occurrence ici des pressions pathogéniques, c'est-à-dire dans un environnement pathogénique, eh bien, vous allez peut-être favoriser certains variants qui vont vous protéger vis-à-vis de ces pathogènes, ou au contraire, vous allez éliminer des variants qui vont vous conférer une susceptibilité à une maladie. Et finalement, les gènes HLA sont gouvernés par ces deux grandes catégories de mécanismes. Et ça, c'est très intéressant, parce qu'on peut à la fois étudier l'histoire des populations en étudiant cette diversité, mais aussi l'histoire des maladies et, disons, les défenses immunitaires des différentes populations dans des environnements donnés, à des temps donnés.
Et cette diversité, si je ne m'abuse, elle nous protège aussi. C'est quelque chose qui est bon pour nous.
Exactement, cette diversité nous protège. Pendant longtemps, on a pensé que la sélection naturelle, c'était simplement favoriser un variant qui allait être très efficace et ou alors défavoriser un variant qui allait, s'il apparaissait par mutation, allait être très délétère. Et puis, en étudiant les gènes HLA, on s'est aperçu que la diversité elle-même pouvait être sélectionnée. Parce que si vous vivez dans un environnement qui est très riche en pathogènes, par exemple, vous avez votre richesse en variants HLA va vous octroyer un plus grand potentiel de protection vis-à-vis d'une grande diversité de pathogènes. Donc vous avez tout intérêt, vous, à avoir des gènes qui ont de multiples variants qui vont vous protéger dans n'importe quelle situation.
Mais quand vous parlez de la richesse de notre complexe HLA, vous parlez au niveau individuel, c'est moi, Lucia, j'ai intérêt à avoir plein de variants différents, ou autour de cette table, on a intérêt à avoir plein de variants différents, parce que si jamais on se fait décimer, il y en aura un qui va en rescaper.
Oui, alors vous posez une bonne question.
C'est un peu radical, hein, comme manière de voir les choses.
Vous posez une bonne question, c'est-à-dire qu'individuellement, bien entendu, vous avez, il semble qu'un individu qui soit ce qu'on appelle hétérozygote, c'est-à-dire qui présente une grande diversité de variants à chacun de ses gènes, soit mieux protégé d'une façon générale. Mais à l'échelle d'une population, c'est vrai que plus une population présente de variants, plus elle a des chances de survivre, ou en tout cas qu'il y ait un certain nombre d'individus de cette population qui survivent s'il y a des grandes épidémies qui déciment une partie de la population.
Vous avez d'ailleurs publié il n'y a pas longtemps une étude qui suggère, enfin qui a été voir dans les différents bouquets HLA, enfin la diversité telle qu'elle est représentée à différents endroits du globe, et la conclusion c'était que tous les bouquets étaient plus ou moins aussi efficaces, c'est ça?
Oui, ce qui nous intriguait beaucoup et qui a été le point motivant pour cette étude, c'est qu'en étudiant la diversité des gènes HLA dans de nombreuses populations humaines, on s'est aperçu que certains gènes HLA étaient très peu variables dans des petites populations isolées très isolés des autres, qui avaient donc, quand on a des petites populations, il y a tendance à avoir une perte de diversité génétique dans ces populations. Et on se demandait comment se fait-il que des populations puissent encore survivre alors que certains de leurs gènes HLA sont très peu diversifiés, présentent peut-être un variant à 90%, contrairement à la plupart des autres populations. Donc ça a été le point de départ. Et du coup, on a essayé d'aborder cette question avec une approche en fait statistique et bioinformatique, où on a regardé, on a comparé les populations en essayant d'estimer une sorte de potentiel humain de chaque population, mais non pas en prenant les gènes HLA gène par gène, mais en prenant la combinaison de plusieurs gènes HLA à la fois. Et le fait que l'on ait plusieurs gènes HLA nous confère un potentiel immunitaire semblable. Donc dans des petites populations, vous pouvez très bien avoir un des gènes HLA qui présente une très faible diversité, mais il y a d'autres gènes HLA qui vont compenser cela. Et au bout du compte, toutes les populations sont pratiquement équivalentes en termes d'immunité.
Donc il y a beaucoup de variants dans certaines populations, peu de variants dans d'autres. Mais
exactement.
Comment derrière ça devient concret en termes d'efficacité? Comment vous évaluez l'efficacité? Vous regardez s'ils sont très malades ou peu malades?
Non. Alors nous, on regarde pas ça. Nous, on regarde en fait l'éventail de pathogènes et de peptides qui peuvent être présentés par les différents variants HLA présents dans une population. Donc plus vous avez de variants, plus vous avez de molécules HLA qui se distinguent entre elles par leur capacité à présenter des peptides de pathogènes différents. Et donc là, vous pouvez estimer des statistiques qui vous donne ce potentiel, cet éventail de pathogènes que chaque population peut présenter. C'est ça qu'on a fait.
Alors, c'est un peu une approche similaire à cette étude que vous avez publiée en 2020, toujours sur ces fameux gènes du système immunitaire, hein, ces gènes HLA. Et vous avez voulu tenter de prédire avec un modèle informatique quel ensemble de ces gènes du système immunitaire, quel type de complexe HLA serait le plus efficace contre certains virus, et notamment le coronavirus. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez fait ça et aussi ce que ça a donné, parce que les résultats étaient un peu surprenants, non ?
Oui, alors on utilise des outils bioinformatiques qui ont été développés par des chercheurs sur la base d'études fonctionnelles très très poussées. Mais ces outils bioinformatiques sont très utiles parce qu'ils permettent d'évaluer à quel point une molécule HLA codée par un variant donné est capable de présenter avec une grande efficacité le peptide d'un certain pathogène. Alors, vous pouvez, ces outils permettent de voir si sur un ensemble de molécules HLA, vous présentez avec une forte affinité les peptides d'un pathogène donné. C'est ce qu'on a cherché à évaluer. On cherchait quels sont les variants HLA qui sont plus à même de présenter des peptides dérivés des protéines du coronavirus, par exemple.
Et donc de mieux lutter contre le Covid-19, par exemple.
Exactement, exactement. Et on s'attendait justement à établir une liste de variants HLA qui soient des variants vraiment protecteurs vis-à-vis du coronavirus et d'autres variants qui soient des variants justement de susceptibilité. Ou si vous les avez, eh bien, vous avez plus de chances peut-être d'avoir la maladie ou d'avoir des formes sévères de maladie ou autres. Et en fait, on a établi des listes comme ça. Donc il y a tout un catalogue de variants HLA qu'on a proposé comme étant des marqueurs qui sont, enfin des variants qui sont de haute de protection ou de susceptibilité. Mais on était quand même assez surpris de se rendre compte que c'est très peu spécifique. C'est-à-dire que les variants HLA, en réalité, sont des variants généralement généralistes. Parce qu'on a on a fait les mêmes estimations avec d'autres virus. On a pris le coronavirus, on a bioinformatiquement, si vous voulez, découpé les protéines codées du coronavirus en des petits peptides. On a fait des estimations d'affinité avec de liaison avec ces molécules HLA. Tout ça pour le coronavirus, mais on a fait la même chose avec le virus, avec plusieurs virus de la grippe, par exemple. On a fait la même chose avec le virus du HIV. Et on s'est aperçu qu'en réalité, les variants HLA qui répondaient le plus au coronavirus répondaient aussi au virus de la grippe ou répondaient aussi au HIV. Donc ce sont des variants généralistes en réalité.
Mais est-ce que ça veut dire qu'on est bien préparé parce qu'on a des généralistes capables d'encaisser tout ce qui arrive, ou est-ce que ces généralistes, ça serait mieux d'avoir des spécialistes qui sont peut-être plus efficaces contre un virus, enfin qui en prennent qu'un en charge mais qui savent mieux le gérer?
Alors bon, la question elle est double, c'est-à-dire que des molécules spécialistes à un moment donné, si vous avez une épidémie donnée, peuvent jouer effectivement un rôle s'ils sont très spécifiques et si vraiment ils sont très efficaces. Par contre, les généralistes, finalement, on pense que ce sont plutôt des molécules HLA généralistes qui ont été sélectionnées au cours de l'évolution, parce que justement elles sont efficaces dans n'importe quel milieu pathogénique.
Mais est-ce qu'on les a tous, ces généralistes, ou est-ce que d'un individu à l'autre, finalement, vous allez pouvoir prédire, en analysant mon génome ou le génome de Lucia, si on va être plus ou moins à risque face au SARS-CoV-2 ?
Alors bon, nous notre approche elle est populationnelle. Hein. C'est difficile de faire des statistiques en prenant individu par individu, savoir ce qui se passe. Il faudrait
ou alors une population d'un pays ou une population d'un autre pays. Est-ce qu'on a ces différences de sensibilité au SARS-CoV-2?
Alors oui. Alors on a justement publié récemment un article qui montre que n'importe quelle population humaine a des variants HLA qui sont pas forcément les mêmes, mais qui assument des fonctions complémentaires. Et ça, c'est une grande découverte parce que finalement, le système HLA peut varier. Il peut varier, il peut muter, il peut donner toutes sortes de variants qui vont se distribuer dans les populations. Mais à chaque fois, il y a des fonctions qui sont complémentaires. Complémentaires et qui vont assumer une immunité, quel que soit en fait le milieu pathogénique auquel vous êtes soumis. Donc ça, c'est absolument extraordinaire.
C'est un peu comme si on avait toutes et tous pris des chemins différents pour arriver à une parade globale un peu similaire. On n'a pas eu la même histoire, le même arbre généalogique, mais on a vécu sur la même planète avec des pathogènes quand même assez proches.
Exactement. Et finalement, donc c'est très intéressant parce que dans cette diversité, on arrive à se rendre compte de comment la sélection naturelle justement a conduit à ce que beaucoup de ces variants généralistes finalement se soient distribués dans les populations, mais on conserve aussi les signatures de l'histoire passée, c'est ce que je vous racontais au début, c'est-à-dire qu'on peut continuer à raconter la généalogie des populations, l'histoire humaine en étudiant ces variants.
Est-ce que les résultats de ce genre d'approche peuvent avoir des applications pratiques, je pense à la recherche dans les vaccins par exemple ?
Oui, absolument. Si vous, alors c'est, je dirais, c'est nécessaire et pas suffisant d'avoir des approches bioinformatiques. Il faut évidemment beaucoup d'autres études pour développer des vaccins. Mais c'est vrai que ça aide beaucoup parce que si vous identifiez des molécules HLA qui sont très très spécifiques pour certains peptides de pathogènes, ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est de voir justement d'où viennent ces peptides, de quelles sont les protéines qui sont les plus susceptibles de provoquer une réponse immunitaire. Donc ça, c'est très utile pour orienter le développement de vaccins.
Est-ce que vous pensez que la pandémie actuelle va laisser des traces dans notre génome, finalement, influencer les gènes de notre système immunitaire ? Et on transmettra ça aux générations futures ?
Oui, mais pas forcément de notre système immunitaire. Vous savez que les récepteurs... Alors, il y a un exemple qui me vient à l'esprit, c'est des systèmes de groupes sanguins. Vous avez... Vous connaissez le groupe sanguin ABO, mais vous connaissez peut-être pas d'autres groupes sanguins. Ce sont des molécules qui sont présentes à la surface de vos globules rouges et qui peuvent être des récepteurs. Alors, parmi ces groupes sanguins, on a les systèmes de Phi. Ce sont qui se sont avérés être des récepteurs du pathogène de la malaria. Et en fait, si vous avez un variant qui ne code plus pour ce récepteur à la surface, donc une mutation qui se produit, qui fait que, qui est une mutation silencieuse et qui ne code plus pour ce récepteur, vous êtes protégé contre la malaria. Ça a été montré pour Duffy. Pour le coronavirus, on étudie aussi les récepteurs, et vous savez que par exemple le récepteur ACE2, c'est une porte d'entrée du virus dans la cellule. Si vous avez une mutation qui supprime cette porte d'entrée, eh bien, le virus ne pénètre pas. Donc, finalement, le fait d'avoir ces infections peuvent avoir justement des conséquences sur la distribution de certains gènes, comme des gènes des récepteurs qui sont des portes d'entrée du virus.
Alicia Sanchez-Mazas, vous êtes notre grande invitée du vendredi. Vous êtes responsable de l'unité d'anthropologie du département de génétique et évolution de l'Université de Genève. Alors, on a beaucoup parlé de vos travaux sur la génétique du système immunitaire humain, sa grande diversité. Mais maintenant, est-ce que vous pouvez nous dire ce que toute cette histoire nous raconte, cette diversité des gènes immunitaires au niveau des peuplements et de l'histoire de l'humanité ?
Oui, bien sûr. En fait, cette diversité, elle résulte d'une histoire humaine qui a démarré il y a quelques 200 000 ans, quelque part en Afrique, peut-être en Afrique de l'Est, peut-être ailleurs en Afrique, et qui s'est poursuivie par une migration des populations dans l'ensemble des continents. Et en fait, quand vous étudiez la génétique, que ce soit la génétique du système HLA, mais aussi la génétique de multiples autres gènes dans le génome, vous vous apercevez qu'on peut retracer en fait l'histoire de ces migrations à partir de l'Afrique. En Afrique, vous avez des populations qui sont les plus diversifiées de la planète. Et cette diversité, elle a eu finalement le temps de se constituer au travers de mutations et parce que une grande partie de l'humanité s'est passée en Afrique avant les grandes migrations, donc elle s'est accumulée en Afrique. Et puis ensuite de ça, quand les populations ont migré dans les autres continents, elles ont perdu une partie de cette diversité avec des fréquences proportionnelles en quelque sorte à la distance parcourue par les populations à travers les continents. Donc on peut retracer, on peut vraiment reconstituer les chemins qu'ont fait les humains à travers la planète.
Avec quelle précision en termes de géographique et en termes de temps ? Vous pouvez dire là, tel siècle ça s'est passé à 10 kilomètres près ?
Non. Alors, l'estimation du temps, c'est quelque chose de compliqué, hein, parce qu'il faut pouvoir estimer des taux de mutation des gènes, par exemple, justement à quelle vitesse les mutations vont se produire dans tel ou tel gène. Ça demande quand même pas mal de reconstitutions qui peuvent être compliquées, et puis ça demande d'avoir aussi des références dans d'autres disciplines comme la paléontologie ou comme l'archéologie préhistorique qui, elle, va dater directement des vestiges. Donc on essaye de faire coller en quelque sorte les données génétiques avec les données d'autres disciplines. Maintenant, on peut être très précis parce que effectivement, un système comme le système HLA est tellement diversifié que toutes les populations vont présenter un profil génétique spécifique qui peut être mis en relation avec les autres populations. Donc au niveau de l'Afrique, par exemple, c'est un continent que nous étudions à l'heure actuelle dans notre projet de recherche, eh bien, vous arrivez à distinguer des populations des différentes régions géographiques. Vous voyez que les populations d'Afrique de l'Ouest se distinguent en fréquence des variants génétiques, des populations d'Afrique du Sud, des populations d'Afrique de l'Est, etc. Vous retrouvez une sorte de carte géographique. Alors, c'est pas seulement la carte géographique, puisque vous avez commencé cette partie de la discussion en parlant de linguistique, c'est aussi une carte linguistique. En fait, les linguistes, eux, s'intéressent beaucoup à l'histoire des grandes familles linguistiques. En Afrique, il y a à peu près 2000 langues qui sont parlées, 2000 langues différentes, qui sont classées dans quatre grandes familles linguistiques, hein, le Niger-Congo, l'afro-asiatique, le nilo-saharien et le khoisan. Et c'est très intéressant de regarder si la carte génétique que vous établissez en étudiant justement les gènes HLA ou d'autres gènes va correspondre à la carte linguistique du continent que vous étudiez. Et puis étonnamment, nous quand on a commencé les études, on s'est aperçu, en tout cas pour l'Afrique, ça marche bien. Ça marche bien, c'est-à-dire que vous arrivez à distinguer les grandes familles linguistiques la plupart du temps avec les marqueurs génétiques.
Vous dites en Afrique, en Europe et en Asie aussi ?
Alors ça dépend, parce que dépendant le problème d'identifier justement ces corrélations entre la génétique et la linguistique, c'est qu'il y a des facteurs confondants. Un facteur confondant typique, c'est la géographie, parce que les familles linguistiques se répartissent dans différentes régions du globe, d'accord ? Elles sont distribuées de façon géographique, et du coup, vous savez pas si la corrélation que vous trouvez avec la génétique, c'est de la géographie ou c'est de la linguistique. Donc, il y a des facteurs confondants. Mais en Afrique, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une histoire récente pour à l'échelle de l'évolution humaine, évidemment, mais des quelques derniers milliers d'années, disons, entre 5000 ans et aujourd'hui, où il y a eu une histoire relativement récente, par exemple, d'un groupe de population qui a migré vers le sud, qu'on appelle les locuteurs bantous, qui ont migré à partir d'une région centrale africaine vers le sud, et qui se sont retrouvés, nez à nez, si j'ose dire, avec d'autres populations qui étaient déjà présentes dans le sud de l'Afrique, étaient les khoisans, qui parlaient des langues d'une toute autre famille linguistique. Et là, c'est intéressant parce que finalement, dans l'histoire récente, ces deux grandes familles linguistiques se sont retrouvées voisines. Et là, on s'aperçoit que la génétique permet de les distinguer. D'accord. Mais dans d'autres situations, dans d'autres continents, on a étudié par exemple beaucoup l'Asie orientale, l'histoire des migrations fait que finalement, c'est une histoire trop ancienne, pour qu'on arrive à mettre en évidence vraiment encore ces spécificités des différents groupes de population qui parlent des langues de différentes familles. Il y a eu beaucoup de mélanges, il y a eu beaucoup de superpositions de différentes migrations qui rendent le pattern un peu plus compliqué.
Alors, toutes ces études génétiques, vous me le disiez en préparant cette émission, elles montrent à quel point l'humanité est un continuum où c'est difficile de mettre les gens dans des boîtes, ce qu'on a quand même tendance à faire de temps en temps et que vous n'aimez pas tellement. Il y a aussi des problèmes d'échantillonnage, non, particulièrement en Afrique ou dans des continents qui sont moins étudiés. La plupart des génomes qu'on a, c'est des génomes de personnes occidentales. Qu'est-ce que ça pose comme problème?
Évidemment, quand vous avez peu de population pour représenter tout un continent, vous passez à côté de la diversité, de la description correcte de la diversité. Vous avez un regard réducteur sur la diversité. C'est ce qui s'est produit dans l'histoire de l'anthropologie. Quand on s'est confronté à des populations dont le faciès était différent, on s'est dit, tiens, là, il y a des noirs, ils sont pas blancs, il y a une catégorie noire et il y a une catégorie blanc. Parce que on s'était pas rendu compte jusqu'à quel point les population en fait présente toute la gamme de couleurs de peau sur la surface de la planète et qu'on peut pas classer les individus en noir ou blanc. Simplement il faut décrire le fait que on a des couleurs de peau plus ou moins foncées, et puis plus vous étudiez de populations, plus vous allez vous mieux décrire cette diversité, mieux la comprendre et vous apercevoir que quel que soit le caractère que vous étudiez, on a un continuum de variation et non pas des catégories.
Vous avez d'ailleurs un projet qui vise à obtenir une meilleure représentation de la génétique des populations en Afrique au niveau des gènes HLA, donc ces gènes qui codent une partie de notre système immunitaire. C'est quoi votre objectif?
Alors notre objectif, c'est déjà de mieux décrire la diversité génétique africaine, qui est très mal connue, malgré le fait que justement c'est un continent extrêmement diversifié sur le plan.
Et que c'est notre berceau,
et c'est que la plus grande partie de l'existence même d'Homo sapiens s'est déroulée en Afrique. Et jusqu'à présent, on a eu un regard très réducteur parce qu'on a étudié peut-être une population d'Afrique de l'Ouest, une population d'Afrique du Sud, une population d'Afrique de l'Est. C'est ce qui est dans les grandes bases de données du génome à l'heure actuelle. Ce sont peu de populations. Alors maintenant, on essaye de compléter cette carte pour essayer de voir justement qu'est-ce qui se passe sur le plan africain. D'une part, pour essayer de reconstituer l'histoire du peuplement africain, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de gènes qui sont très puissants pour nous raconter l'histoire. Et les gènes HLA en font partie. Donc, est-ce qu'on peut reconstituer des migrations? Comment ça se passe? Est-ce que des populations ont pu se mélanger, rester isolées, etc.? Et puis, d'un autre côté, c'est toute l'histoire des pathogènes. On sait que l'Afrique, c'est un continent qui est encore aujourd'hui soumis à des grandes pressions de pathogènes. La malaria est un excellent exemple. On parle de pandémie Covid maintenant, mais la malaria continue de sévir dans la plupart des pays africains. Et donc ça, c'est très intéressant parce qu'on est en train d'étudier des gènes du système immunitaire qui peuvent nous révéler une histoire de ces pathologies, de ces infections et jusqu'à quel point certaines populations pourraient être mieux protégées que d'autres vis-à-vis de ces pathologies.
Merci Alicia Sanchez-Massas d'avoir passé cette heure avec nous. On en sait plus sur la génétique des populations dans le monde. Je rappelle que vous êtes directrice du laboratoire d'anthropologie génétique et peuplement de l'Université de Genève, responsable de l'unité d'anthropologie du département de génétique et évolution. Vous étiez invité par Lucia Silig.
De 10h à 11h, CQFD.